rencard mensuel sur l'actualité musicale
avec Gaëlle Loanien et Nelly Roussel
sur Art District Radio,
c'est
Joapé.
Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Drop It sur Art District Radio, bien évidemment. Merci de nous suivre encore une fois dans nos divagations musicales. Et quand je dis non, c'est pour une bonne raison, puisque j'anime cette émission avec ma très chère Nelly. Bonjour Nelly.
Bonjour.
En forme aujourd'hui ?
Bah ouais, carrément.
Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, bien sûr que non. Nous avons à nos côtés la chanteuse Flavia Coelho. Bonjour Flavia.
Bonjour menina.
Salut, et donc vous êtes aujourd'hui présente, ou tu es aujourd'hui présente si tu préfères, comme on s'était dit, pour parler de musique. Vous l'aurez bien compris, chers auditeurs, puisque Flavia vient présenter son nouvel album intitulé DNA. Mais avant de revenir sur ton parcours et d'élucider ce titre assez accrocheur, je dirais, il est temps de passer à notre petit exercice de début d'émission, n'est-ce pas Nelly ?
Oui, en effet, passons aux actualités musicales. Alors Gaëlle, il paraît que les sorties d'albums voient rouge en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Eh bien oui Nelly, tu as raison. Étrange coïncidence dans les sorties en cette fin octobre, début novembre. Il pleut des rééditions et de surcroît, il pleut rouge. Non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de virer folle, mais ma surprise fut grande lorsque cet automne, trois artistes pop aux trois albums très écoutés ont décidé de rééditer leurs bijoux avec une couverture de la même couleur. L'Homme Pâle et Aya Nakamura ont choisi communément le 25 octobre pour sortir leur réédition et Angèle attend le 8 novembre. Janine de L'Homme Pâle change même de nom et devient Amina. Nakamura reste Nakamura. Et Angèle, comme une vieille parodie cinématographique, passe de Brawl à Brawl la suite.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces rééditions là ? C'est nouveau ça ?
Eh bien, c'est un phénomène pourtant assez courant de remettre sur le tapis un projet sorti quelques mois auparavant, parfois même des projets qui ont plus d'un an. Si on imagine bien la réédition d'albums collector de grandes stars du rock, il est plus difficile de comprendre pourquoi un artiste aux sorties presque annuelles peut se prendre à ce petit jeu de la réédition. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes aux grosses ventes le font en ce moment, c'est-à-dire par exemple Jules, Soprano, PNL, Clara Luciani. Clara Luciani qui a même sorti une super édition.
Mais je comprends pas. Alors pourquoi rééditer un album qui est déjà un gros succès ? L'Homme Pâle, Aya Nakamura, Angèle, ce sont quand même des artistes qu'on a entendus toutes les années, qui remplissent des zéniths facilement.
Eh ben, tu fais bien de le demander, Nelly, et figure-toi que le succès, bah, ça ne fait pas tout. J'ai trouvé quelques réponses dans le webzine spécialisé Rap Français Interlude. Bon, des réponses peu étonnantes, hein, malheureusement, mais qui, à mon avis, font part d'une certaine réalité. Too If explique alors qu'une réédition permet de ressortir des morceaux qui ne sont pas prévus dans le cadre d'un nouveau projet. Donc par exemple, Amina, la réédition L'Homme Pâlienne, qui est le surnom que se donnait sa grand-mère Janine, donc le titre du de l'album d'origine, contient 5 nouveaux morceaux avec des artistes invités dessus. Angèle invite aussi Kiddy Smile pour l'un de ses 5 inédits de Brawl la suite, et Aya Nakamura propose aussi 3 inédits et 2 remixes. Alors, certains parlent d'une course au tube à l'approche des Energy Music Awards pour les deux chanteuses, mais bon, est-ce bien cela la raison ? J'en doute. Parce que il peut y avoir aussi une raison assez financière, finalement, à la réédition, parce que ça permet de relancer les ventes d'albums, puisque, bah, vous le savez tous, hein, l'industrie du disque va assez mal. Et même pour des nouvelles pop stars, on sait très bien que ce sont plus les concerts et non pas les CD qui permettent de mettre du beurre dans les pattes, quoi. Donc, le journaliste d'Interlude souligne aussi un point intéressant. Lui, il pense que ces rééditions peuvent être perçues comme, je cite, « des ponts pour les artistes, une manière subtile d'annoncer un nouvel album, une transition entre deux couleurs musicales. » Donc c'est joli. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans certaines de ces récentes rééditions d'ailleurs. L'album du coup subit le passage du temps, des événements. Parfois il est la cause d'une propulsion soudaine de l'artiste sur le haut de la scène. Et la réédition fait part de cette maturité-là.
Et alors un petit exemple de ces albums arrivés à maturation, par exemple ?
Bah, par exemple, l'homme pâle, lui, l'assume, il ne voulait pas enchaîner avec un nouvel album et préfère garder ça plutôt pour 2020, car il veut créer un nouveau projet, parce que bon, avec un CD, il y a tout le côté packaging, l'image, quelque chose de très très construit, un concept, c'est ça. Et trouve que la réédition permet de prolonger l'album avant qu'il soit oublié par le nouveau qui arrivera ensuite. Et donc si l'homme pâle, lui, voit ça comme une continuité, au contraire, on peut parler de rupture pour la réédition de Brol, puisque certaines des chansons inédites d'Angèle parlent de la nouvelle vie qu'elle a eue avec le succès, et aussi de sa rupture amoureuse qu'il y a eu entre-temps, la sortie de l'album en octobre dernier, je le rappelle. Une update un petit peu plus sombre et fragile que concluait le quotidien belge Le Soir, après son entretien avec la chanteuse. On peut l'entendre par exemple dans la chanson Perdue, qu'on peut passer un petit extrait derrière ma voix, et je vais rester là-dessus pour les actualités musicales. Je pense qu'on a fait le tour de la question des rééditions. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fière, ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre ne l'a. Perdu, perdu, perdu dans, perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu, en baissant la voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre but, on s'ennuie fort, on se tue. Perdu, perdu. Peut-être. Toi aussi, Flavia, envisageras-tu une réédition de ce nouvel album DNA dans quelques mois? On ne sait pas. Mais pour le moment, restons dans le présent et on va s'intéresser à toi. Du coup, en première question, c'est plus une... Je voudrais m'intéresser plutôt à ton style musical. Donc, on définit ta musique parfois comme du reggae, parfois juste comme de la musique brésilienne. Enfin, comme si tout le monde au Brésil jouait la même musique. Comment, toi, tu le définirais? Parce que moi, pour moi, c'est pas que du reggae. Est-ce que t'as une façon de l'expliquer?
Je vais essayer de faire simple, je fais de la musique.
Oui, en soi, voilà.
En soi-même, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment... comment on peut mettre les artistes dans les cases? Oui. Par exemple, comment on peut prendre un artiste comme l'homme pâle, que vous venez de parler dans la chronique, qui sort de le studio... de la base pour faire 5 titres extraordinaires dans une version presque acoustique jouée par des vrais musiciens, alors que c'est un rappeur qui a l'habitude de travailler avec des machines. Donc vous voyez, est-ce qu'on peut mettre ça dans le rap? Pour moi, c'est presque de la chanson. Donc c'est du rap parce qu'il y a les paroles, le texte, la vitesse des mots, mais l'orchestration musicale, c'est de la chanson, c'est voire même du rock.
Oui.
Donc comment on peut enfermer les gens dans les cases aujourd'hui? Pour moi, c'est fini. Donc les gens qui me voient, qui écoutent ma musique, qui disent ah, ça c'est du reggae, ça c'est du pop, c'est de la world music, du Brésil, peu importe, c'est leur jugement, c'est très bien, comment ça le va, ils ont beaucoup de choses à penser qui est en dehors de ça, penser où me mettre. Donc moi je fais de la musique, je vais être libre pour faire la musique que j'ai envie de faire.
Et bien justement, on va s'intéresser alors à cette propre musique. Ta carrière musicale commence très tôt, si je me trompe pas, à 14 ans tu intègres un groupe de samba. Est-ce que justement cette influence samba aussi, ce qu'on peut avoir dans la bossa nova vient de ces expériences musicales que tu as eues pendant ton parcours?
Toute ma musique, elle est liée directement à mon parcours musical. Je commençais à l'âge de 14 ans avec ce groupe de jeunes femmes célibataires qui faisaient que de la samba. Mais après ça, je passais par toutes les musiques diverses et variées de ma culture, dans le forró, le pagode, la bossa nova, bien évidemment, tout ce qu'on appelle la musique traditionnelle brésilienne, qui a une multitude de rythmes. Après, je n'ai passé par le reggae, le raga, le hip-hop, le rap, le jazz, le R&B, le funk, le metal, le rock. Comme vous venez de dire tout à l'heure.
Le metal?
Ah oui, bah, au Brésil, les plus grands groupes de rock au monde sont des Brésiliens, Sepultura, Angra.
D'accord.
Donc ça, le metal, c'est une musique qui est très très fort, le rock, c'est très très fort dans le Brésil. Donc je passais par tous ces genres de musique là. J'avais voyagé beaucoup dans mon pays. À l'âge de 26 ans, j'ai pris la décision de venir en France.
Oui.
Donc toute cette histoire, elle est liée à ma façon de faire ma musique. C'est pour ça qu'à un moment de choisir quel style de musique je veux faire, ici je faisais ma musique, ici je construisais à partir de toutes ces expériences là.
Bah oui, c'est sûr, je comprends tout à fait. Donc justement, tu as dit que tu étais venue en France, donc en 2006, il me semble. Dans un premier temps, c'est un petit peu la galère, à ce que j'ai compris.
C'est carrément la galère.
Et après, tu finis par jouer régulièrement dans un bar, et là, rencontre avec Victor Vague, qui va te produire, et avec qui tu vas composer. Donc de là est né tous les précédents albums, donc Bossa Muffin en 2011, Mundo Meu en 2014, Sonoreal en 2016, jusqu'à DNA aujourd'hui. Moi, je me demandais, comment on tient un travail commun aussi longtemps, parce que c'est pas forcément habituel de voir ça dans la musique, d'avoir les mêmes personnes avec qui on travaille. C'est quoi votre clé? Qu'est-ce qui marche pour vous?
Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour travailler pour un projet et pas pour nos égos personnels. Mmh. La musique, pour moi, ma façon de voir la musique, c'est la musique qui décide où c'est le refrain, comment elle doit être chantée, quels accords elle doit prendre. Dès qu'on commence un morceau, après, c'est la musique qui donne l'ordre. Je pense que c'est ça le vrai secret pour que après ça touche les gens. Et nous n'avons pas du tout ce genre des égos ou genre parfois je fais un morceau la veille, j'ai pleuré toute la nuit, j'arrive, il écoute ça, il dit mais comment tu m'as fait une dope pareille.
Vous êtes assez franc là envers l'autre.
On est complètement franc, ouais. Et je pense qu'il faut être franc dans ce genre de métier. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que caresser l'artiste du sens de poil, bon sens de poil, ça fait avancer les choses. Pas du tout, au contraire, on doit déjà nous battre beaucoup avec nos égos. Donc si en plus pour la musique l'ego est dedans, donc je pense que c'est ça la formule magique. On aime ce qu'on fait et on croit à un projet musical. Nous on a envie de faire des choses, de faire des expériences, mais expérimentations musicales. On a créé une façon, un style qui au Brésil on faisait pas trop, donc on est là-dedans en fait.
Ouais,
plus
d'accord.
Pour la musique.
Ouais, et puis on voit qu'il y a un réel soutien au final. Vous faites votre projet à deux, enfin c'est ton nom sur le projet, ouais. Mais il est quand même
bien
là
sûr,
tout le temps,
et pas que lui. Il y a Alchonville, Simon Batteur, qui est sur scène avec moi, pareil, oui, depuis plus de 8 ans. J'essaie de garder toujours les mêmes équipes. Je pense que le secret de la musique, c'est aussi travailler en équipe et un peu partout pareil. Aujourd'hui, les gens, ils veulent toujours, je comprends, il faut changer des gens, changer de musiciens et tout ça, mais moi, je suis un peu à l'ancienne, j'aime garder le crew, quoi.
Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est une tendance, peut-être, qu'on voit où les musiciens ont tendance à bouger et tout ça, donc c'est très intéressant. Et bah, du coup, maintenant qu'on a un petit peu dressé légèrement le tableau musical, comme on pourrait le dire, on va s'intéresser à ce fameux album, et d'ailleurs, je crois que Nelly s'est un peu creusé la tête sur ce fameux mot DNA, l'ADN en français.
Oui, bah moi j'aime bien toujours trouver le secret derrière les noms d'albums comme ça. Et donc forcément, j'ai été sur Wikipédia parce que je suis très studieuse et j'ai trouvé la définition. Donc ADN, acide du noyau des cellules vivantes, constituant essentiel des chromosomes et porteur de caractère génétique. Donc il y a un aspect environnemental avec le mot génétique, la famille, le passé, la terre sont des thèmes assez récurrents dans cet album, de ce que j'ai compris. Mais dans cette définition, il y a aussi les mots essentiels et vivants, qui sont également à l'image de cette musique que moi, personnellement, je trouve assez généreuse. Mais donc, question, est-ce que c'est notre passé et nous-mêmes qui définissons notre musique, avec notre expérience, ou est-ce que c'est notre musique qui finit par nous définir ? Parce que sans te connaître personnellement et en ayant juste écouté cet album, j'ai l'impression d'en savoir beaucoup sur toi, beaucoup plus qu'avec une simple conversation d'ascenseur, je pense. Hein. Donc finalement, dans notre musique, j'en ai conclu que elle se mue, elle se transforme au rythme de nos décisions, de nos choix, de nos gestes et nouvelles habitudes. Et tout est question d'expérimentation, je pense. Mais pour se découvrir, tout est une question de première fois. Donc j'ai décidé de te faire cette petite interview les premières fois. Alors, Flavia, quel était ton premier CD, le premier CD que tu as acheté?
Le premier CD que j'ai acheté, c'était un CD de Phil Collins. le CD qui s'appelait Carousel, c'était un disque live, en fait, qu'il avait enregistré, qui n'avait pas du tout été retouché, en fait. Ça veut dire qu'ils avaient joué le show et bon enregistré. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais très fan de Phil Collins. Je sais que c'est plus du tout la même chose, mais je suis surtout fan de l'artiste parce qu'il jouait de la batterie, il chantait terrible, il jouait de saxophone terrible. Et pour moi, à l'époque, c'était mon premier salaire. J'ai acheté ce CD, j'avais même pas la machine. machine pour faire tourner le CD. Quoi.
Ben, c'est la symbolique qui
voilà,
compte.
Voilà, c'est la symbolique qui comptait de pouvoir entrer dans un magasin, acheter un disque live comme ça. Mais j'avais beaucoup de disques déjà que j'ai récupérés de mes copains. Mais c'était en fait, c'était l'orchestration. Cette orchestration, il y a un artiste qui pouvait jouer plusieurs instruments comme ça. Ça me rendait dingue.
Alors, quel était ton premier instrument ?
Mon premier instrument, c'est les percussions.
Ah.
Et ensuite, la guitare qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. D'accord. Quel a été ton premier concert ? Celui que tu as vu, pas celui que tu as fait.
Mon premier concert que j'ai vu ?
Ouais. Ton premier souvenir de concert ?
J'en ai vu beaucoup. Hein. Ouais. Surtout que comme je commençais très tôt, ma mère m'amenait très tôt un peu partout. Mm-hmm. On va dire que le premier concert, c'était sûrement un concert brésilien, voilà, samba, etc. Mais dans mes souvenirs, ce n'est pas vraiment un concert, c'est un sound system. Ce sont des radioles, de ce qu'on appelle des radioles. Ce sont des chars, des grands chars, avec des enceintes et qui jouent du reggae toute la nuit avec des vieux disques reggae, du Peter Tosh, Bob Marley. J'avais 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans. J'écoutais ça dans un village, c'était le village où je vivais. Et ces chars, ils venaient, on était peut-être 200 et on dansait du reggae toute la nuit.
Oui, bah c'est ça, ce qu'on peut retrouver un peu dans le carnaval de Notting Hill, j'ai l'impression.
Complètement, ouais, ouais, c'est ce genre de chars qu'il y a à Notting Hill qui a dans les campagnes brésiliennes.
Oui, bah ouais.
Bah ça construit l'ADN, ça, je pense. Quelle était ta première chanson culte, celle que tu as répétée quand tu étais petite, que tu chantais, qui t'a...
Je crois que c'est une chanson de Luis Gonzaga, qui est une chanson de forró traditionnelle, qui parle de voyageurs migrants qui migrent du nord-est du pays, qui vont dans le sud, construire le sud du pays.
D'accord. Quel était ton premier échec musical, ta première déception ?
Ma première déception, je crois que c'est les premières maquettes que j'avais fait au pays parce que c'était vraiment très très mauvais. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, entre autres, que je parte du pays, c'était parce que je me suis rendu compte en écoutant cette maquette que j'étais vraiment influencée pour ce qui était autour de moi. Et à l'époque, toute la musique qu'il y avait autour de moi, elle était très sexiste, elle était très machiste.
Ah oui.
Elle vraiment mettait les femmes dans des conditions lesquelles moi-même je ne m'étais jamais vue, ni aucune de mes amis. Et donc je pense qu'on peut aussi à un moment donné de nos vies devenir ce qu'est l'environnement. Et la musique qui existait au pays, laquelle j'avais accès, c'était ça. Et quand j'ai vu le groupe, j'ai écouté, j'ai dit oula, ça c'est pas moi du tout. Bisous les gars.
Au revoir. Quelle était ta toute première scène?
Ma toute première scène, j'avais 6 ans, habillée en Madonna par ma mère, en robe de mariée, en train de chanter « Like a Virgin ».
Damn. Pour faire un lien avec notre émission précédente, c'est très très rigolo, parce qu'on voit que les stars comme ça ont influencé l'enfance. Par exemple, notre précédente invitée, c'était Sarah du groupe Mauvais Oeil, elle nous parlait qu'elle aimait bien se donner en spectacle en Britney Spears.
C'est 10 ans après.
Oui, voilà. Mais il y a quand même l'idée de la figure.
Complètement.
Et alors, quelle était ta première collaboration ? Ton premier featuring ?
Mon premier featuring, waouh, là, maintenant, on est au 30e. je crois, ah oui, bien sûr, je me rappelle, c'était avec HK et les Saltimbanques, bien évidemment.
Ah, intéressant.
Ce groupe extraordinaire du nord de la France, très fort, qui sont là depuis des années, qui remplit des salles et qui jouent de la musique sublime.
D'accord. Eh bien, félicitations. J'ai réussi à retracer un petit peu le secret derrière l'ADN de Flavia.
Merci.
Et on passe à la suite.
Et justement, oui, en parlant d'ADN, ce serait peut-être bien d'écouter la chanson éponyme de cet album. On va la lancer tout de suite et après on en parlera un petit peu plus. C'est parti.
De noite e de dia, você sempre se pergunta. Quero uma resposta correta, bem mais profunda. A definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor. Riqueza exuberante que vem do interior. O que vem da raiz? Seu DNA. Tá no 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 seu DNA. Tudo é mais bonito, tudo fica fácil quando a gente aceita.
consumo o que é dor. Até seu defeito de caráter extravagante, personalidade é sua, não é de ninguém. Quando você nasceu, o universo disse: a vida dura, dura pouco, só depende de você. Isso é lógico. O seu talento é genético, vale pra entender. É biológico.
Correta, bem mais profunda, a definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor, riqueza exuberante que vem do interior. O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar. Está escrito, está aí. Tá no seu DNA.
Drop It, c'était DNA, le titre éponyme du nouvel album de Flavia Coelho, qui est avec nous. C'est aussi la chanson qui affirme un certain message. On pourrait le penser assez personnel de base, mais en regardant les paroles, j'ai vu que c'était assez politique, une nuance d'espoir et quelque chose de très positif. Je cite le début du second refrain. Dit « Tout est plus beau, tout devient facile quand on accepte enfin ce qu'on a hérité. La connexion avec tous, tous nos semblables, même ceux qui viennent de très loin. » Alors, n'en déplaise aux idéalistes comme moi, ces paroles pourraient très bien sortir de la bouche d'un Tiken Jafar Koli. C'est très, c'est un peu dans ce même univers. N'empêche que ce sont des paroles assez actuelles finalement, sur la recherche de l'identité, l'acceptation des autres. Question, j'aimerais pas vous mettre dans de beaux draps, mais est-ce que le
accouche.
Est-ce que le climat politique français n'aurait pas un petit peu influencé cette question?
C'est le climat mondial, ouais. Hein, c'est pas du tout une exclusivité de la France.
Ouais, c'est ce que je me suis dit.
Je viens d'un pays qui est, je sais pas, 90% métissé. Et nous sommes en train d'avoir des discussions comme cela.
Ouais.
Donc, un pays qui n'a pas parlé, excuse-moi, d'immigration et du métissage depuis, je ne sais pas, un siècle. Mmh. Nous sommes en train de parler d'un pays comme le Brésil qui a libéré les esclaves il y a à peine un siècle.
Ouais.
Et qui ne veut toujours pas accepter qu'il y a du racisme. Donc, je pense que quand je parle de ces questions-là, de l'ADN, je parle surtout de, justement, pour ces réfractaires réactionnaires,
ouais,
qui ont oublié l'histoire de leur propre pays, peu importe de quel pays on peut parler, qui, tous les pays ont été construits par des gens qui sont venus d'ailleurs, qui nous sont, se sont mélangés depuis très très longtemps. Et je pense qu'à partir du moment que les gens vont commencer à se rendre compte que ce métissage, on ne peut pas l'empêcher parce qu'on est carrément dedans, et on va arrêter de parler de se séparer et on va commencer à parler de se rassembler parce que la planète est en train de brûler et qu'à un moment donné, la maison, la baraque, elle va tomber. Et je pense que ces questions-là, elles sont importantes, d'acceptation de soi, de dire oui, on est tous métissés de quelque part, tout a été la planète a été construite et après les gens ont voyagé. Donc viens, on regarde un petit peu dans nos histoires, regarde comment c'est beau d'être métissé, de venir un peu d'ailleurs, de continuer ce métissage qui sera éternel. Même les plus durs des personnes au monde ne pourra jamais arrêter ça.
Ouais, donc c'est un message assez universel au final.
Je suis pas là pour essayer de passer des messages.
Ouais. Hein, ouais. Quand je dis message, bien sûr,
j'essaie de décrire la vie laquelle je vis aujourd'hui avec mes petits yeux. Je suis une femme qui a 39 ans et je peux pas parler que de la barbe à papa, quoi.
Ouais, donc, c'est sûr.
Important de dire des choses comme elles sont là aujourd'hui, mais surtout avec l'espoir et l'envie que le monde aille mieux.
Ouais, bah ça va rejoindre un petit peu ma prochaine question. Donc moi j'ai été assez surprise par l'album,
J'espère bien.
Oui, très très bien. Alors d'ailleurs, bah, justement par ces thèmes abordés et puis aussi par l'innovation musicale. Donc au niveau des sujets, DNA il traite. Mais une diversité assez impressionnante. Donc, il y a les droits humains, l'amour, de la poétique. Dans Le Ventadaille, c'est une référence au Venezuela, il me semble. Mm-hmm. Dans Menino Menina et Nosso Amor, ça parle du genre, de la sexualité et notamment la difficulté du coming out. Comment on en vient à écrire sur tant de sujets différents ? Est-ce que c'est ta vie, ton entourage qui a permis d'écrire comme ça sur des sujets très vastes ?
Depuis toujours, j'ai écrit déjà un peu dans chacun de mes albums de ce sujet-là. Je pense que maintenant, l'intérêt est un autre parce que la boîte de Pandore au Brésil a été ouverte. Donc maintenant, tout le monde est au courant que, il y a des racistes au Brésil. Waouh. Il y a l'homophobie au Brésil, dis donc. Donc, tu vois, tout ça, c'est nouveau. Donc, du coup, les gens, ils ont une tendance à, tiens, là, Flavia, engagée, politique.
Il
y a beaucoup plus d'intérêt maintenant qu'aujourd'hui. Mais effectivement, l'écriture de cet album, elle était complètement basculée le jour de l'escrutin de l'année dernière.
Ouais,
donc, j'étais sur un sujet, j'écrivais, j'avais déjà plus ou moins commencé à écrire de certaines choses. Mais le 25 octobre, mon monde est tombé, j'ai passé une semaine au fond de mon lit et je ne savais plus quoi faire. Je me suis vraiment dit, est-ce que je dois dire les choses comme elles sont ou je dois continuer à vivre ma vie? Et j'ai fait vraiment un vrai travail sur moi-même pour me dire comment je devais décrire ça et écrire ça. Mm-hmm. L'actu, ce n'est pas du tout ma façon d'écrire. Depuis toujours, j'ai toujours écrit sur des choses plus antérieures, des sujets qui ça parle un peu à tout le monde. Mais finalement, pour cet album d'Ena, plus j'écrivais, plus je sentais que ça parlait à tout le monde, que les sujets n'étaient pas à nouveau exclusifs que du Brésil, mais que ça arrivait ici aussi en France, en Hongrie, aux États-Unis, bref, un peu partout. Donc oui, l'écriture de l'album, elle était changée après cet événement-là. Et mettre tout ça en écriture et regarder et après écouter l'enregistrement, c'est très dur. C'est très dur de savoir qu'en 2019, il y a encore des gens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer tranquillement.
Ouais.
Il y a des gens qui souffrent parce que pour le racisme, l'indifférence, les stigmatisations des minorités, c'est un scandale. Donc, c'est simple de dire c'est un scandale, mais il faut faire quelque chose. Donc, comment moi, en tant que femme directe qui vit ces genres de choses depuis toujours, parce que j'ai passé quand même 26 ans dans mon pays et que maintenant, ce qui était un secret pour nous, ce n'est plus un secret pour vous. Il fallait le faire, il fallait l'écrire. Et c'était pas simple, mais je répète, il fallait le faire.
Oui, mais c'est vrai que la vague Jair Bolsonaro, au final, tournait un peu le regard occidental vers le Brésil, mais c'est sûr que c'est pas un cas isolé, loin de là. Et donc, l'autre chose qui m'a surprise, ce changement un petit peu par rapport aux précédents albums, j'ai l'impression. Lorsque j'ai écouté Ciudade Perdida, j'essaie de le dire comme je peux.
Très bien, tu l'as très bien dit.
Super. Eh bien, je me suis dit, mais Flavia Coelho, c'est plus du reggae. Bon, bien sûr, c'est pas que reggae, on était bien d'accord.
Ouais.
Et là, on part sur des voix à la hip-hop un peu old school, des couplets trap, et pourtant toujours la signature avec quelque chose de très dansant et instrumental. Est-ce que le hip-hop va prendre de plus en plus de place dans ta musique ? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'air du temps ?
Non, il a toujours sa place. Hein. C'est juste que je ne le chantais pas sous des instrus de ce genre-là. Ça veut dire que quand je posais mes flows hip-hop, je mettais ça sous une guitare acoustique avec un fond d'accordéon et la pompe reggae.
Oui.
Oui. Tu vois. Donc, par contre, pour voilà, à nouveau, on est dans un truc un peu dans la petite case. Mm. C'est que dès que je mets un flow comme ça dans une vraie instru hip-hop, ça sonne hip-hop. Ouais, après, il n'y a aucune volonté de faire il dit hip-hop, tu vois. Ouais. C'est parce que le truc, il est naturel, mais c'est ma façon de poser mes flows, ma voix et tout ça. Après, c'est l'orchestration qui change tout. Mais ça a un apport avec mon évolution musicale et que j'écoute beaucoup d'électro aussi et que j'adore. Le rap fait partie de ma vie depuis toujours. L'hip-hop, je viens de quartier. Donc ça, c'est l'école à laquelle on est, quoi.
Ouais.
L'air du temps, je pense que l'hip-hop, maintenant, c'est un truc de vieux, à vrai dire.
Oui, c'est sûr.
L'hip-hop,
c'est plus par rapport à la
même l'électro, c'est un truc de vieux. L'électro, ça a 30 ans, maintenant.
Ouais, c'est clair. Et donc, cette chanson, elle a aussi elle parle justement de Rio et la situation qui est plutôt assez critique. On voit clairement les paroles que tu aimes cette ville et que ça peut... est assez brisant de voir comment ça se passe. Et il y a d'ailleurs des paroles qui m'ont fait un peu tiquer. C'est « La ville perdue veut la paix et l'union. Une solution, pas un jus d'orange. »
La traductrice n'a pas mis le truc... elle n'a pas expliqué l'expression « jus d'orange ».
Et je me suis dit justement qu'il y avait peut-être une référence que les Brésiliens peuvent comprendre, mais je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire exactement.
Ouais. En fait, jus d'orange, c'est parce qu'au pays, tous ceux qui détournent de l'argent, on les appelle les oranges.
Ok, d'accord.
Et donc, comme ils en prennent tellement qu'ils font du jus.
Ok, très bien.
Parce que pour faire un litre de jus d'orange, il faut pas mal d'oranges. Donc ça veut dire qu'il récupère beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que dans les traductions, il fallait mettre... Il y a tellement d'argot, de trucs dans la langue brésilienne qui... C'est comme le rap ici. Si tu comprends pas le français vraiment du quartier, tu peux pas comprendre ta truc.
Mais au final, moi, j'avais quand même compris quelque chose. Super. Et ça, je me suis dit, mais c'est vrai que ça doit avoir... Enfin, ça a du sens aussi en français, je trouve. Parce que c'est... une phrase qui demande de grands changements et pas des petits pas, justement.
Ouais.
Et donc, ça me fait penser à pas mal de choses qui se passent aujourd'hui, notamment au Chili, tout ça. Au final, c'est vrai que cette chanson, on peut la prendre aussi pour des combats un peu plus universels, justement, comme on disait pour DNA.
Complètement. Finalement, c'est ce que je t'avais dit au début tout à l'heure. J'ai écrit en pensant beaucoup au Brésil parce que ça m'avait basculé l'écriture. Mais à la fin, plus j'écrivais, plus je voyais et le monde qui se passe autour de nous, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est les détournements y sont, le Chili est en crise, le Venezuela a vécu une crise, les gens n'ont pas mangé, ils n'avaient plus de médicaments, rien du tout. Le continent en Afrique, on le connaît, bon, ça continue, quoi. J'ai pas l'impression que c'est fini tout de suite, mais bien sûr que les des grands actes, oui. Des petits pas tous les jours.
C'est ça. Et du coup, c'est super de pouvoir mettre en musique des sujets comme cela. Et c'était très intéressant. Et donc, on va écouter justement Ciudadé Perdida, parce que je pense que nos auditeurs ont bien envie de se rendre compte de ce que ça peut être. Et après, on parlera d'avenir, plus précisément de l'agenda des sorties de Nelly.
Oui.
Allez, on écoute ça.
Cidade perdida, tá perto do fim. É qual é? Disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim. Fecharam o castelo, preconceito aumentou. Prometeu, nada fez, só piorou. Modificaram o nome da bomba. De TNT pra RJ, a população fica bamba. Como a gente faz, tá de cara na porta. Quem que roubou? Mala de dinheiro deram. Golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas tão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. Vi professor, pobre sem salário, sendo ameaçado. Crime tá organizado. A verba foi cortada da merenda da escola. Criança carente se aproxima da pistola. É, disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim. É, qual é? Disseram pra mim.
acesso. A inteligência e a cultura iniciando o retrocesso. Começo do fim, a voltar a censurar. Só tem patrão, só tem mafioso. X9, delação, fala demais, é perigoso. Eu vi doutor pegando semi-aberto, fugindo pras Maldivas. E o trabalhador entra no cano, cano alto escalão. Máfia tudo é fake, fake. Todos na rede, rede. Tão nessa droga face. E o sofrimento vem de lá das caravelas. A corrupção veio escondida dentro delas. É, disseram pra mim, cidade perdida, tá perto do fim. Sai de casa de noite ou de dia, não sabe se volta, isso dá revolta. Bagulho é babado, batata tá quente, inferno de Dante batendo na porta. Mamaram na teta do banco do estado, tremendo esculacho. É família, família é fé, o nível tá baixo. Por isso balanço maluco, meu sangue tá quente, eu não sou capaz. No caderno vomito o que li, o que vi, o que penso, o que acho. No quadro internacional, diz o nível tá baixo. O que era fundamental, hoje pertence ao passado. Nossa memória no meio das cinzas queimou, apagou. Na semana passada é o começo do livro da treta. Capítulo 1.
Drop it.
Eh bien, c'était Ciudadé Perdida de Flavia Coelho. Maintenant, nous allons passer à l'agenda de Nelly.
Oui, bonjour, c'est moi, c'est Nelly. J'ai préparé, j'ai sous les yeux, le grand tableau de l'agenda musical. Donc, il y aura de mi-novembre à mi-décembre. C'est parti pour les amateurs de jazz. Ça commencera le 9 décembre avec Lucky Peterson au New Morning. Donc là, on est sur un classique de chez classique, ne manquez pas ça. Et le 28 novembre, on aura Gregory Porter à l'Olympia. Pour tous ceux qui préfèrent le jazz un peu plus crooner, pour ceux qui sont un peu plus influencés par le new jazz, le 17 novembre, on aura Christian Scott, un super trompettiste, au New Morning également. Et pour rester au New Morning, le 10 décembre, on aura ce groupe de jeunes prodiges à cheval entre Paris et Londres, Neuillographique Ensemble, si je prononce bien, voilà, toujours au New Morning. Après, si vous êtes amateur de hip-hop, il y aura un match qui va se jouer le soir du 5 décembre. Il y aura Alpha One, ce jeune rappeur très talentueux à l'Olympia. Et de l'autre côté, ce prodige Riles au Zénith. Là, il va falloir prendre une décision. Ce sera grave. Ce sera le 5 décembre. Ensuite, si vous êtes un peu funky, vous aurez le 6 décembre ce producteur Dabeul à la Maroquinerie. Je vous conseille de ne pas le louper car c'est son premier live, c'est live debut à la Maroquinerie. N'oubliez pas Dabeul et pour finir, le boss final de la funk le 14 novembre, Herbie Hancock à la salle Playel.
On n'oublie pas non plus les dates de toi, Flavia, puisque, bon là, j'en ai trois, mais bien sûr, on n'oublie pas dans un an un Olympiade prévu. Mais en attendant, quand même, il y a le 4 novembre, au Métronome de Toulouse.
Le 14, plutôt.
Ah, c'est le 14, ouais. D'accord. Très bien.
Parce que le 4, c'était
avant-hier.
Ah bah
avant-hier. Oui, exact, bien sûr.
Un concert dans le passé.
Il y a un qui n'est pas passé.
On s'écoute.
Je suis désolée, le 14 novembre donc. Ensuite, le 15 à Marseille au Melting Art et le 24 à la Nef à Angoulême. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Je te remercie beaucoup, Flavia, pour être venue. N'hésitez pas à aller écouter DNA. Je pense qu'on en a assez parlé et que vous avez sûrement eu envie de l'écouter. Nelly, merci aussi à toi.
Bah de rien.
Et puis, pour te remercier encore plus, je te laisse annoncer la dernière chanson pour se quitter en musique.
Bah oui, mon petit favori du coup de l'agenda, Herbie Hancock. Eh ben, est-ce qu'on s'écouterait pas le célébrissime Caméléon?